enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais que ce matin, nous puissions revenir dans le sermon sur la montagne. Et on va avancer dedans. On va lire ensemble Matthieu chapitre 5, verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, bien sûr, celui-ci, c'est Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble le verset 4 qui dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et ce que j'aimerais, c'est que au travers de ce verset, nous puissions voir comment le Seigneur a dit cela. Parce que c'est important. On entend la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est bonne, elle est vraie. Mais nous devons la recevoir et la comprendre de la façon dont le Seigneur a vraiment voulu la dire. C'est-à-dire sans les lunettes, dirais-je, de la religion. Parce que quand on a un esprit religieux, il est dit « heureux les affligés ». Et on a cette image de « oui, la vie, c'est quelque chose qui est difficile et qu'on est affligé, c'est pour la gloire de Dieu, on doit se plaire, on doit se réjouir dans l'affliction ». Comme par exemple l'apôtre Paul qui le disait, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens au chapitre 12, il est dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et lorsque l'apôtre Paul a dit cela, ce n'était pas du tout avec un esprit religieux. Ce n'était pas je me plais dans les problèmes, dans les souffrances, dans les persécutions, dans les calamité pour Christ, parce que c'est là que on voit que je suis quelqu'un d'extraordinaire ou quand je suis quelqu'un de très spirituel. C'est pas ce qu'il dit. Il dit parce que quand je vis ces choses, c'est alors que je vais être fort. Fort parce que, vous savez, nous sommes des êtres humains avec nos limitations, avec nos faiblesses, avec bien sûr nos erreurs. Et quand toutes ces choses viennent contre nous et que on s'est confié dans le Seigneur et on vit en lui, on est appuyé sur lui, eh bien sa force va venir en nous et prendre le relais. Et ça, c'est ça qui est important, c'est ça qui est bon, parce que être persécuté ou être affligé juste pour être affligé, c'est pas quelque chose de glorieux. Amen. Et c'est quelque chose qui ne bénit personne. La Bible dit pas heureux les affligés, point final. Oui, nous sommes sur cette terre, nous étions dans le péché, le Seigneur vraiment, il a eu pitié de nous, il nous a sauvés, et maintenant nous aussi, nous allons être affligés, et nous aussi, nous allons souffrir, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux. Mais la parole de Dieu dit « heureux ceux qui sont affligés », mais après, il y a quelque chose qui vient juste derrière, « car ils seront consolés ». Amen. Et la consolation de Dieu, ce n'est pas la consolation des hommes. Qu'est-ce que c'est que la consolation des hommes? Même des gens qui sont bien intentionnés, même des gens qui ont un bon cœur, quand quelqu'un vient te consoler, il n'est pas capable de changer ta situation, il n'est pas capable de réparer. Parfois, il l'est, mais c'est limité, ça va seulement jusqu'à un certain point. Amen. Amen. Ça va pas. Les hommes ne sont pas capables de faire des miracles. alors que Dieu en est capable. Et la consolation de Dieu, ce n'est pas juste te taper doucement sur l'épaule en te disant « Non, t'inquiète pas, ça va passer, c'est pas grave, supporte, on t'aime. » Non, ce n'est pas ça. La consolation de Dieu, c'est quelque chose qui amène un résultat. Et le Seigneur est capable de nous consoler parfaitement parce que lui-même nous aime. Amen. On peut recevoir la consolation du Seigneur, on ne peut recevoir la consolation que de quelqu'un qui nous aime et qui nous aime vraiment. Il y a ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 7 qui montre vraiment le cœur de Jésus par rapport aux hommes. Au chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà de quelle façon Jésus a consolé cette femme. Cette femme, elle avait le cœur brisé parce qu'elle était veuve, donc elle n'avait plus de mari. Et elle avait un seul fils, un seul. Et ce fils-là venait de mourir. Et Jésus n'est pas venu voir cette femme en lui disant « Mais bon, t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tu sais ce qui vient de se passer, c'est normal, c'est la vie, on n'est pas sur la terre éternellement. Ne t'inquiète pas, ton enfant, tu vas le revoir quand tu seras au ciel et c'est comme ça que tout va finir. » C'est comme ça que tout va s'arranger. Jésus n'a pas dit ça à cette femme. Amen. Il lui a pas dit ça. Ça c'est le genre de consolation que un homme peut apporter. T'inquiète pas, c'est normal, il est mort, mais il est mort dans le Seigneur. Donc tu vas voir, tout va aller très bien après. Non, Jésus est venu apporter une consolation concrète. Et de quelle façon il a apporté cette consolation concrète? C'était en ressuscitant cet enfant qui était mort, en le rendant à sa mère. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que quelqu'un meurt, on va aller au cimetière et dans le nom de Jésus, on va ressusciter le mort dans le cercueil. Ça ne veut pas dire ça non plus, parce qu'il faut rester équilibré dans les choses de Dieu. Amen. Mais même si tu perds quelqu'un qui est proche, quelqu'un que tu aimais, qui meurt, il y a une consolation de Dieu qui peut venir dans ton cœur. Amen. Une consolation et une guérison, parce que quand on fait face à la mort de quelqu'un qu'on aime, qui nous était proche, c'est toujours un brisement, c'est toujours un déchirement. Et la consolation des hommes, elle est toujours limitée, mais la consolation qui vient du Seigneur, elle est parfaite. Et elle va amener quelque chose de supplémentaire dans notre vie. Je voudrais qu'on lise un autre passage dans Corinthiens. Je vais retrouver ça tout de suite. Je pense que c'est le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ, car si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise dans la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. qu'est-ce que veut dire ce passage ? Et de quelle façon on peut voir que la consolation du Seigneur peut se manifester ? C'est toujours que, en fait, quand on est affligé parce que on traverse des moments difficiles, n'est-ce pas ? On est affligé parce que on subit parfois des injustices, des incompréhensions, des confusions, des attaques, différentes choses. Et parfois aussi, on est affligé parce que c'est nous-mêmes qui avons fait des choses. Quand je dis nous-mêmes qui avons fait des choses, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a péché, mais on a fait des erreurs. Et ces erreurs ont amené parfois des problèmes, des difficultés, des catastrophes ou des drames dans notre vie. Et de quelle manière la consolation de Dieu peut se manifester, s'appliquer quand nous traversons de telles choses ? C'est que d'abord, il va guérir notre cœur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va toujours amener quelque chose de meilleur. Amen. Vous savez, on a besoin de changer par rapport à notre compréhension de Dieu et des choses de Dieu. Tout à l'heure, j'ai volontairement pris cet exemple de cette veuve dont Jésus a ressuscité le fils. Et il ne faut pas qu'on en fasse quelque chose d'automatique. Quelqu'un meurt dans ma famille, c'est pas grave, le Seigneur va me consoler et ce mort va ressusciter. Et vous savez, il y a des gens qui sont excessifs avec ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui sont excessifs et qui ne comprennent pas bien les choses de Dieu. C'est vrai que la résurrection est quelque chose qui peut arriver, mais ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas. Il faut laisser à Dieu l'occasion de faire ce qu'il a envie de faire. D'amener les choses qu'il a envie d'amener. Quand tu es affligé, quand tu as perdu quelque chose, laisse Dieu amener dans ta vie ce qu'il veut amener, que ce soit une restitution ou que ce soit autre chose, quelque chose de plus grand et de meilleur. Amen. Parce que ça sera toujours quelque chose de plus grand et de meilleur. Dieu n'est pas un Dieu de deuxième ou de troisième qualité. Il est le Dieu de la qualité supérieure. Et on a besoin d'arrêter d'avoir des idées préconçues et de raisonner les choses parce que notre façon de raisonner, de toute manière, elle est toujours destructive. Elle est destructive vis-à-vis de nous et elle est destructive vis-à-vis des autres. Par exemple, quand on subit une injustice, et bien souvent, je ne dis pas tout le temps, mais bien souvent c'est quelque part un peu de notre faute parce qu'on a mal géré certaines choses, on s'est mal comporté, on a mal compris et on s'est retrouvé face à d'autres personnes qui eux aussi ont leurs incompréhensions. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement. Je sais que vous vivez ça dans vos vies régulièrement, dans vos vies de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit même à l'école pour ceux qui vont à l'école. On fait des erreurs et du fait que les gens qui nous entourent ne sont pas parfaits et qu'ils n'ont pas une perception complète et totale des choses que nous vivons, eh bien, ils vont avoir certaines réactions et parfois ça amène de la destruction. Et quelque part, au fond de notre cœur, quand on se sent lésé, quand on sent qu'on a vécu une injustice, directement, on veut se lever et dire qu'on me fasse justice et que celui qui a mal fait ou qui a mal agi, que ce soit lui qui paye et qui ait les conséquences. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Tu veux que Dieu te fasse grâce et il te fait grâce et il te fera grâce encore. Et il veut faire grâce aussi aux autres. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est que quand la grâce de Dieu se manifeste envers tout le monde, que tout le monde est béni, que tout le monde est fortifié, que tout le monde est encouragé, que tout le monde reçoive quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ça qui est important. Pour ce qui concerne la consolation et ce que disait Paul ici dans cette deuxième épître aux Corinthiens, il dit que Dieu est celui qui nous console et dans la consolation, il y a bien sûr une restauration de notre âme, de nos émotions, de nos pensées, de toutes ces choses qui parfois ont été secouées, dans lesquelles il y a eu des brisements, des choses qui ne sont pas bonnes, qui se sont manifestées. Et quand nous sommes affligés, là, et l'apôtre Paul parle de la patience à supporter les mêmes souffrances. Et quand on parle de supporter et de endurer, ça ne veut pas dire « bon, c'est comme ça, c'est la vie, je supporte ». Et je vais finir par mourir peut-être, mais c'est pas grave. Et ça, c'est encore un esprit religieux qui est là. Quand on parle d'endurer des souffrances, quand on parle de supporter les souffrances, c'est dans le sens, la parole de Dieu, le sens de la parole de Dieu, il nous parle d'une résistance triomphante face aux pressions. Une résistance triomphante. Et c'est là où le Seigneur veut amener son peuple. C'est là, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est là où le Seigneur veut nous amener, quoi qu'il puisse arriver ou ne pas arriver. Il y a des choses que l'on pouvait prévoir, d'autres que l'on ne pouvait pas prévoir. Quoi qu'il puisse arriver, que tu aies cette compréhension, que tu sois au fond de toi-même éduqué dans la parole de Dieu, non pas pour dire bon ben c'est la vie, hein, je suis obligé de supporter. Non pas qu'on ait cet esprit de religion en disant « voilà, je suis affligé pour la gloire de Dieu, je souffre, je suis détruit, alléluia, c'est bien, c'est bon. » Mais que nous ayons une éducation dans notre esprit pour comprendre que quoi qu'il puisse être en train de se passer là, ou que quoi que je puisse avoir vécu ou que je puisse voir, je sais que en puisant en Dieu, en recevant sa consolation, je vais recevoir de lui, au fond de mon être intérieur, cette résistance triomphante. Amen. Résistance triomphante qui va amener la gloire et la victoire de Dieu dans ma vie, dans ma situation, dans ce que je suis en train d'expérimenter qui peut être épouvantable ou catastrophique. La consolation de Dieu est amenée dans nos vies de manière à nous faire sortir des choses épouvantables et catastrophiques pour nous amener dans un autre niveau et pour manifester sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. S'il n'y a pas une intervention de Dieu, il n'y a pas de gloire de Dieu. Comment est-ce que Jésus se glorifiait sur cette terre? Comment est-ce qu'il glorifiait le Père? En faisant des miracles. Quand il a rencontré Bartimée, il ne lui a pas dit « Prends courage, mon fils, quand tu seras dans le ciel, tu verras clair. » Quand il a rencontré cet homme à la main sèche, il lui a pas dit « Prends courage, tu as une main sèche, c'est vrai, mais il t'en a encore une autre que tu peux utiliser. » Et quand il a rencontré cette femme qui était courbée, il lui a pas dit « Bon, c'est vrai, tu es courbée, mais te plains pas, au moins tu peux marcher. Te plains pas, au moins tu peux parler, au moins tu vois clair. » Non, il a manifesté sa gloire en guérissant les malades, en délivrant ceux qui étaient captifs, en agissant dans les situations, et toujours exactement et parfaitement, et au bon moment. Amen. La consolation de Dieu, la gloire de Dieu doit être manifestée dans notre vie. Non pas selon ce qu'on pense. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais cela. Et vraiment, ce matin, je veux vous encourager, nous encourager tous. Recherchons cette éducation qui vient du Saint-Esprit. Que nous soyons éduqués dans nos façons de penser. Que nous cessions d'être des paysans spirituels. Je vous assure que c'est grave. Depuis longtemps, le Seigneur nous parle. Depuis longtemps, le Seigneur nous enseigne. Depuis longtemps, nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Et si nous étions autre chose, excusez-moi, c'est pas du tout de la méchanceté. On est tous ensemble dans cette histoire-là. Si nous étions autre chose que des paysans spirituels, nous verrions la gloire de Dieu d'une autre manière. Si les choses de Dieu ne sont pas glorieuses et éclatantes, comme c'est écrit dans cette parole, c'est pas parce que Dieu a changé, ce n'est pas parce que la parole de Dieu finalement elle est pas tout à fait vraie, ce n'est pas parce que Dieu est fatigué, c'est parce que nous avons un problème. et nous avons besoin de changer. Et quand je dis paysan, ce n'est pas quelque chose de méchant. Ça serait méchant si je disais nous sommes là, c'est définitif, on est tellement comment dire coincé dans nos idées qu'on va y rester jusqu'à la fin de nos jours. Ça serait méchant. Mais si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que il y a un espoir de changement dans nos mentalités, dans nos façons de comprendre Dieu, dans nos façons de comprendre sa parole, afin que nous arrivions au point où toutes ces choses merveilleuses et glorieuses de Dieu puissent être vraiment, pleinement, complètement manifestées dans nos vies et dans l'Église. Parce que notre Seigneur, il n'a pas changé. Il faut que sa consolation soit visible, qu'elle soit manifestée. Il faut que d'abord nous ayons pour nos vies les réponses de Dieu. Amen. Et je pense que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous cherchez aussi pour vos vies les réponses de Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui se cache. Dieu n'est pas quelqu'un qui garde ses réponses bien cachées dans sa poche. Il est là, il te les tend, il te les donne. Il me les tend, il me les donne. Mais bien souvent, on ne les voit pas. On ne les comprend pas parce qu'on regarde ailleurs, parce qu'on est distrait, parce qu'on est tellement coincé dans nos idées, dans notre mentalité humaine, charnelle, pourrie, notre incompréhension. Il faut que nous changions, chacun d'entre nous. Et moi, la première, je me sens concernée, je ne suis pas en train de m'élever au-dessus de vous, en train de vous traiter de paysan, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais que nous puissions changer afin de réussir, afin que la parole de Dieu puisse être puissante, efficace dans nos vies, afin que cette consolation que Dieu veut amener dans nos vies en intervenant, en agissant, puisse être pleinement manifestée. Cette consolation se manifeste à deux niveaux. Un premier niveau, c'est qu'elle nous donne cette résistance triomphante à supporter ces pressions. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de voir la gloire et la manifestation du Saint-Esprit par le changement des choses qui nous ont affligées. L'apôtre Paul l'a vécu dans Acte 16, quand il était à Philippe. Il était en train de servir Dieu. Il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est retrouvé battu, jeté en prison, alors qu'il était innocent. Il avait de quoi être affligé, amen. Et certainement qu'il l'était. Parce que tu ne peux pas recevoir des coups et crier de joie après. Mais c'était un homme qui savait puiser dans son Dieu, qui savait recevoir la consolation de Dieu pour supporter avec une résistance triomphante ce qu'il a vécu, une résistance triomphante. Et le triomphe, c'était que, au travers, malgré ce qu'il a vécu, il a su louer Dieu dans la foi. Et Dieu a agi en ouvrant les portes de la prison, en faisant trembler les murs. Et ça, c'est pas arrêté là. C'est que cette ville a été touchée par l'évangile à cause de cette résistance triomphante de Paul dans les difficultés. Amen. Et c'est là où le Seigneur veut t'amener. C'est là où le Seigneur veut nous amener tous. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Consolés, c'est-à-dire que tu auras cette résistance triomphante pour supporter les choses que tu vis, non seulement les supporter, mais en sortir et voir la gloire de Dieu. Et j'aimerais qu'on termine ce matin avec Ésaïe 61. Ésaïe 61, chapitre 61, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Et tout ça, ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus. Là, c'est un passage prophétique qui parle de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur lui. Et en fait, toute cette consolation, toute cette intervention, toutes ces choses, tu peux les recevoir de lui. C'est au travers de lui que tu peux recevoir ces choses. Je veux juste finir et me concentrer sur la deuxième partie, toute la fin du verset 3 qui dit « Pour consoler tous les affligés ». Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Consolés par qui ? Consolés par lui. Et de quelle façon il nous console ? Bien sûr, on a parlé des interventions, mais on va pas. Je veux parler là encore d'autre chose. Te console dans ton âme. Te donne un diadème au lieu de la cendre. Qu'est-ce que c'est qu'un diadème ? C'est une couronne. Et la couronne, ça se met où ? Sur la tête. Dans le psaume 103, il est dit, il me couronne, béni soit, que mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui te couronne de sa bonté. Et je vous assure que dans notre tête, je crois que c'est notre tête, notre pire ennemi. Parce que c'est dans notre tête que circulent toutes ces pensées, toutes ces influences, ces pensées destructives contre nous et contre les autres. Ces pensées qui nous amènent à nous écarter de Dieu quand les choses ne vont pas. Mais Dieu est celui qui veut te couronner de sa bonté. Il veut te donner un diadème au lieu de la cendre. Et qu'est-ce que c'est que la cendre ? C'est quelque chose qui n'a aucune vie. C'est quelque chose qui a été brûlé, qui a été consumé. Et c'est l'image de toutes ces mauvaises pensées qui circulent et qui nous détruisent. Et il est temps que nous sortions de ces choses-là. Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. L'huile de joie, c'est le symbole de l'onction. L'onction de joie quand Dieu veut la déverser dans son église. Et quand son église est ouverte et attentive, cette onction se déverse. Mais quand tu es dans tes pensées destructives, quand tu es en train de te lamenter, quand tu es en train de te plaindre, quand tu es en train de te dire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu es la plus malheureuse des personnes, bien tu es en train de fermer la porte à l'onction de joie. Alors que il veut te donner, il donne une onction de joie au lieu du deuil. Et nous avons besoin de cette onction de joie parce que quand l'onction de joie vient, nous sommes pleinement et parfaitement consolés. Et les choses qui étaient vraiment difficiles, on les voit vraiment comme même sans aucune importance. Sans aucune importance. Non pas que ça n'a pas d'importance, mais parce que tu es conscient de Dieu, tu es conscient de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu est capable de faire et de ce que Dieu va faire. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ça, c'est à nous de prendre ce vêtement de louange parce qu'il nous a été donné. Vous savez, à la maison, on a tous des armoires, n'est-ce pas ? J'espère que vous avez une armoire chez vous et vous avez des vêtements qui sont là. Je sais pas, mais en règle générale, on peut même avoir pas mal de vêtements, mais on a tendance à mettre toujours les mêmes choses, parce que c'est les vêtements qu'on aime le plus. Mais les vêtements qui sont dans notre armoire, c'est à nous le matin de les sortir pour les enfiler, pour nous habiller. Je pense pas que ça soit ton groom qui vienne sortir tes vêtements de ton armoire et qui t'habille, à moins que tu sois handicapé. Et le Seigneur nous a donné ce vêtement de louange. Nous a donné un vêtement de louange et à toi de le prendre et de le mettre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à toi de décider. Je vais louer Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je vais louer Dieu. Dieu est plus grand que toutes ces choses que je vis. Dieu est plus puissant. Dieu est plus fort. Il habite en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et là, quand tu commences à revêtir de cette manière-là cet esprit de louange, eh bien, ton esprit abattu, eh bien, il n'est plus abattu. Ton esprit est fortifié et c'est là où tu es vraiment consolé. Et quand nous sommes dans une position où nous sommes vraiment consolés, c'est là où nous sommes dans une position de foi. Parce que tu vois Dieu, parce que tu connais Dieu, parce que tu entends Dieu, parce que tu vois sa parole. Nous avons besoin d'être consolés pour pouvoir entrer dans la foi. Amen. Et ne te prive pas ce matin de la consolation de Dieu parce qu'elle est là pour ta vie. Donc même si tu es affligé, tu es heureux, non pas parce que tu es affligé, mais parce que tu es un Dieu qui est capable de te consoler et d'agir en ta faveur. Amen. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.
Enseigne-moi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.